je vais lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, des versets 20 à 30. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger.
Alors, est-ce que vous êtes fatigué ce soir? Pour la plupart, sans doute, nous vivons des vies fatigantes, j'imagine, pour la plupart d'entre nous, à différents degrés. Le travail fatigue, le fait d'élever des enfants fatigue, la vie parisienne, les transports, ça fatigue. Peut-être qu'il y en a même parmi nous ce soir qui sont épuisés, qui se sentent au bout du rouleau. Mais il y a une fatigue qui est plus profonde encore que la fatigue physique ou la fatigue émotionnelle. C'est ce qu'on pourrait appeler la fatigue de l'âme. Cette fatigue qui nous accable parce que nous cherchons à tout prix à donner du poids, à donner du sens à notre vie, de mille et une façons. Est-ce qu'on peut guérir ? Est-ce qu'on peut trouver le repos de cette fatigue spirituelle? Nous poursuivons notre série depuis la rentrée qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» sur le peuple que Dieu rassemble depuis des siècles, et cette histoire nous est dévoilée bien sûr dans toute la Bible. Dieu rassemble un peuple d'hommes et de femmes qui lui appartiennent, qui sont revenus à lui alors qu'ils étaient perdus. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament ce soir, et nous voilà face à Jésus de Nazareth, qui affirme être venu de Dieu pour inaugurer le royaume de Dieu et pour rassembler un peuple réconcilié avec Dieu. Alors quel est le portrait de ces hommes et ces femmes que Dieu appelle à former son peuple ? Ben, je vous soumets cette réponse toute simple à partir de notre texte. L'appel de Jésus s'adresse à ceux qui reconnaissent leur besoin de lui. L'appel de Jésus s'adresse à ceux qui reconnaissent leur besoin de lui. Le terme que Jésus utilise dans ce texte pour parler de la vie nouvelle qu'il offre est le repos. Le repos de l'âme, dit-il. Et je vous propose de voir dans ce texte trois étapes nécessaires pour trouver le repos en Jésus. D'abord, reconnaître son besoin de changer. Dans les versets 20 à 24. Ensuite, reconnaître l'autorité de Jésus, versets 25 à 27, et enfin répondre à l'appel de Jésus, versets 28 à 30. Dans un premier temps, donc, reconnaître son besoin de changer. Dans les quatre premiers versets de notre texte, Jésus parle très sévèrement de trois villes de sa région, la région de Galilée, Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Trois villes situées à peu près dans le même secteur, à proximité du lac de Galilée. Et à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus ici prononce un jugement contre ces villes, comme un oracle prophétique contre ces villes. Maintenant, bien sûr, derrière les villes, il y a les habitants des villes. Alors qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, alors qu'il est venu annoncer la possibilité d'un retour à Dieu et d'une vie nouvelle avec lui, eh bien, les habitants de ces villes, dans leur majorité, ont rejeté l'enseignement de Jésus. Et au-delà de Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, Jésus dénonce ici la majorité de ses contemporains qui refusent de reconnaître que c'est bien Dieu qui l'a envoyé, qu'il est bien venu de la part de Dieu, que c'est bien lui qui est venu accomplir les promesses faites à Israël. Par exemple, la promesse faite à Abraham que nous avons étudiée il y a quelques semaines, ou encore la promesse faite à David également étudiée il y a quelques semaines. Ce qui est frappant lorsque Jésus dénonce dans des termes aussi forts Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, c'est que ce n'étaient pas des villes où régnait la débauche, ce n'étaient pas des villes particulièrement immorales, bien au contraire, c'était des villes religieuses, avec beaucoup de gens respectables. Ce n'était pas comme ces colonies romaines de la région, ou les villes païennes de l'autre côté du lac, la Décapole, cette région non-juive qui était juste en face. Non, nous avions affaire ici à de petites villes tranquilles, où vivaient beaucoup de gens bien. Ma famille et moi avons la grâce de vivre depuis un an et demi dans le presbytère du logement de fonction de l'église, et nous sommes conscients du coup d'habiter dans ce qu'on appelle les beaux quartiers de Paris, ce qui n'était pas notre cas avant. Et il n'est pas rare, dans les discussions, par exemple avec d'autres parents d'élèves du quartier, d'entendre un peu ce genre de commentaires. Alors les gens sont très gentils, hein, mais d'entendre un peu ce genre de commentaires. « Ah, on a de la chance, ce quartier est vraiment très bien, les écoles sont très bien. » Et un petit peu en sous-entendu, c'est pas comme ailleurs, c'est pas comme les arrondissements un peu plus à l'est ou au nord, ou en banlieue, encore moins. Et c'est incontestable que nous vivons, et cette église est placée dans un quartier très agréable. Mais c'est vrai que dans ces commentaires, parfois, il y a un petit peu cette idée quand même qu'ici, tout le monde est très bien. Tout le monde gère sa vie de façon très respectable. Même si le contexte est évidemment complètement différent, Jésus s'adresse ici à des villes peuplées de gens bien, et pourtant il les reprend très sévèrement. Verset 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. » Et au verset 23, il monte encore d'un cran, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Elle mérite d'être claire. L'image du Jésus toujours doux, toujours pacifique que certains peuvent avoir en prend un coup. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que Jésus dirait s'il arpentait les villes de notre fière capitale. Parce que justement, le problème ici, c'est la fierté. Quand les habitants de ces villes ont entendu Jésus les appeler à un changement radical et profond, à la repentance, ben, ils semblent ne pas s'être sentis concernés. Ce sont des gens respectables, des gens pieux. Et pourtant, Jésus les dénonce de manière extrêmement sévère et va établir ce contraste terrible. Verset 21, « Si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. » Tyr et Sidon, deux villes phéniciennes un peu plus au nord, des villes non juives. Jésus dit aux habitants de Galilée que, en quelque sorte, ils sont plus loin de Dieu, moins ouverts à ses interventions que les païens de sa région, de la région. Et puis il va faire encore monter la tension d'un cran au verset 23 à propos de Capernaum. « Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. » Vous pouvez difficilement faire plus insultant, entre guillemets. Sodome, c'est le prototype même de la ville immorale, détruite par Dieu en raison de sa dépravation, Genèse 19. Et Jésus est en train de dire que, spirituellement, les habitants de ces trois villes de Galilée sont plus loin de Dieu et moins ouverts à son action que Sodome. Terrible parole. Comment Jésus peut-il dire cela ? Mais la clé se trouve justement derrière ce qu'on pourrait appeler l'obstacle de la respectabilité. Le verset 20 nous dit que les habitants de ces villes n'avaient pas voulu changer d'attitude en entendant l'enseignement de Jésus. Changer d'attitude, il faut reconnaître que c'est une traduction bien faible du mot que traditionnellement on traduit par se repentir. S'il faut utiliser le verbe changer, pourquoi pas, mais alors plutôt changer tout court. Changer profondément dans sa façon de penser, de croire et d'agir. Mais manifestement, à Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, on estimait qu'on n'avait pas besoin de changer. Est-ce que nous estimons que nous avons besoin de changer? Peut-être une bonne question à nous poser. Or, la question, parce que cette question, justement, elle se pose pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts à changer profondément? Alors, bien sûr, la question, elle se pose de façon pressante pour les personnes qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus. Et je ne doute pas qu'il y en ait parmi nous ce soir, dans ce cas de figure. Et la question se pose pour vous. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à changer totalement le cap de votre vie pour suivre Jésus qui vous appelle à une vie nouvelle, une vie de dépendance à Dieu, d'obéissance à sa parole, de réconciliation, de pardon, d'humilité? Mais en posant ces questions, on prend conscience qu'elles ne perdent jamais de leur pertinence pour nous qui sommes chrétiens. Chaque jour, sans exception, nous avons tendance à écouter nos premiers instincts, se comparer aux autres, faire preuve de fierté ou de mépris, se laisser aller à la médisance, à la paresse, à la manipulation, à l'immoralité, en pensée ou en acte. Chaque jour, sans exception, nous avons besoin de changer et de revenir à Jésus, à ses commandements, ses valeurs, ses priorités, et revenir plus fondamentalement encore à son œuvre en notre faveur, à la croix que nous avons commémorée tout à l'heure en prenant la scène. Une œuvre qui implique pour nous un appel à laisser de côté tout ce qui nous séparait ou nous éloignait de lui pour le suivre. Chaque jour, nous sommes appelés à nous recentrer sur Jésus. La clé du changement profond de la repentance, c'est cela, précisément parce que Dieu a placé Jésus au centre de ses projets pour nous. Et ça nous amène au deuxième point, reconnaître l'autorité de Jésus. J'ai grandi dans une famille originaire de deux continents différents, avec un père américain et une mère française. Et lorsque j'étais petit, donc, ça nous arrivait de prendre l'avion. Et je me souviens que parfois, dans les vols courts en particulier, les vols qui duraient une heure ou deux, eh bien, il arrivait que les pilotes ouvrent le cockpit pendant le vol. Et donc, on pouvait les voir à l'œuvre. On découvrait de loin cette quantité incroyable de compteurs, de boutons, etc. Et on était très impressionnés. Alors depuis le 11 septembre, je pense que ça ne se fait plus du tout et je pense même que c'est interdit. Voilà, mes enfants n'auront pas cette expérience. Mais c'était comme un dévoilement de ce qui se passait et qu'on ne voyait pas habituellement. Dans les versets 25 à 27 de notre texte, Jésus, en quelque sorte, ouvre le cockpit quelques instants. Et il dévoile pendant quelques instants quelque chose de la vie intérieure de Dieu qui nous est normalement caché. D'abord, Jésus a rendu les disciples témoins de sa prière adressée au Père. Extraordinaire privilège qui nous donne un aperçu de ce mystère lumineux et insondable. Dieu prie Dieu, le Fils prie le Père. Dans le texte parallèle de l'évangile de Luc, qui raconte donc le même épisode, c'est encore plus frappant parce que Luc nous dit que Jésus, au moment de prononcer cette prière, je cite, « fut rempli de joie par le Saint-Esprit ». Donc Jésus, au moment où il dit ces choses, il est profondément heureux, il est transporté de joie. Quelle est la source? Enfin, quelle est la raison de cette joie? Jésus se réjouit du plan du Père, qui a préféré appeler à lui, non pas les gens fiers et qui se pensent bien comme il faut, mais plutôt, dit-il, les enfants. Alors dans ce contexte, et avec la plupart des commentateurs, je pense que Jésus ne parle pas littéralement des enfants en premier lieu, même s'ils sont inclus. Mais en pensant à ce qu'il vient de dire sur Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, je pense que Jésus s'émerveille de cette surprise que Dieu a réservée, par laquelle il a décidé d'inviter les gens humbles, les gens sans prétention. Alors souvent des gens modestes et simples dans leurs conditions sociales et matérielles, et on le voit dans la Bible à bien des reprises. Mais plus, de façon plus décisive, Jésus appelle des gens qui se reconnaissent perdus sans lui, qui peuvent reconnaître leurs besoins de lui, comme un enfant reconnaît naturellement son besoin de ses parents et n'imagine pas gérer sa vie tout seul. Et c'est à cette foi-là que les disciples de Jésus sont appelés, par contraste avec, verset 25, les sages et les intelligents. Le problème n'est pas l'intelligence en tant que telle. À bien des reprises, la Bible nous appelle à faire preuve d'intelligence. Jésus lui-même reproche souvent à ses disciples de ne pas réfléchir. « Vous n'avez pas encore compris », etc. On trouve souvent cela dans les évangiles. Donc, ce n'est pas l'intelligence en tant que telle qui est en cause ici. Le problème, c'est l'intelligence qui estime ne pas avoir besoin de Dieu. Quelle est la différence entre une intelligence qui se soumet à Dieu et une intelligence qui estime pouvoir faire sans lui? Eh bien, on en trouve un aspect essentiel au verset 27, la clé même. « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ici, Jésus nous livre sans embâge sa centralité absolue dans le plan du Père. Dieu a tout donné à Jésus. Il lui a confié l'autorité sur toute chose. Et Jésus nous parle ici d'une intimité éternelle et mystérieuse entre Père et Fils. Seul le Père connaît vraiment le Fils. Seul le Fils connaît vraiment le Père. Et par conséquent, pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors on pourrait passer des heures à analyser ce verset, mais on retiendra ici que la clé d'une vie et d'une pensée qui plaise à Dieu, c'est une relation avec son Fils Jésus. La clé d'une vie et d'une pensée qui plaise à Dieu, c'est une relation avec son Fils Jésus. Et bien sûr, ça va complètement à l'opposé de la pensée de notre temps. Devant de telles affirmations sur la centralité de Jésus, on entendra souvent en réponse « Mais que tu aies ta foi, moi je veux bien, mais surtout ne va pas prétendre que c'est la seule foi valable, quelle arrogance !» Ce serait arrogant, effectivement, si nous pensions que c'est nous qui sommes meilleurs que les autres, ou même que nous avons réussi à comprendre quelque chose que les autres n'ont pas réussi à comprendre, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de dire que Jésus est unique et incomparable, que dans le plan de Dieu, Jésus est au centre de toute chose, et c'est ça la clé. Ce n'est pas notre centralité à nous, c'est la centralité de Jésus. Et ça, bah, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Mais si Dieu a décidé de faire que Jésus est incontournable, qui de nous peut dire que Dieu n'a pas le droit de faire cela? C'est ça qui est arrogant. Pour connaître Dieu et pour demeurer en relation avec lui, nous ne pouvons pas faire sans Jésus. Il y a quelques jours, Talia, ma femme et moi lisions sur les réseaux sociaux cette demande de conseil d'une jeune femme de notre connaissance, ce n'est pas une amie proche mais quelqu'un que nous connaissons un peu, qui se dit encore chrétienne je crois, mais malheureusement qui semble spirituellement à la dérive depuis un certain temps. Et elle demandait conseil pour un livre de spiritualité qui n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que quelqu'un connaît un livre qui parle de choses spirituelles mais qui n'a rien à voir avec Jésus? Quelle tristesse. Parce que désolé de le dire, mais la spiritualité sans Jésus ne vaut rien. Pour connaître Dieu et recevoir le repos qu'il offre, il nous faut reconnaître l'autorité et la centralité de Jésus. Maintenant, en entendant cela, certains, évidemment, se diront peut-être que ça paraît dur, ça paraît arbitraire. Et puis, qui sont ces privilégiés, ces VIP à qui le Fils a révélé le Père? En fait, nous l'avons vu, ce sont plutôt les humbles, les fatigués de la vie, des gens qui ont perdu leurs illusions et leurs prétentions à donner du sens à leur vie et à celle des autres. C'est eux que Jésus appelle. En fait, dans un sens, quand on est spirituellement à sec, on est en bonne position pour recevoir ce que Jésus veut nous donner. Et c'est la troisième étape pour connaître le repos spirituel, répondre à l'appel de Jésus. Répondre à l'appel de Jésus. La semaine dernière, Paul Harrison a prêché sur ce magnifique texte d'Ésaïe 55. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, sans argent, sans rien payer. » Bien, dans cet appel de Jésus, en Matthieu 11, nous sommes tout à fait dans la même ligne. Il est d'ailleurs tout à fait possible, voire probable, que Jésus avait Ésaïe 55 à l'esprit au moment d'adresser cet appel magnifique. Verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quelle parole magnifique. Alors les fardeaux sous lesquels nous ployons sont divers. Parfois ce sont des fardeaux religieux, et c'est peut-être à ça que Jésus pensait en premier lieu dans ce contexte. Cet effort de vivre une vie de piété qui soit à la hauteur. Et dans nos milieux évangéliques, il y a parfois de cela. On veut être à la hauteur, on veut vivre une piété qui soit au top. Maintenant, pour la plupart, on va dire, des Parisiens aujourd'hui, c'est plutôt une piété laïque qui est en jeu. Les efforts déployés en tous les sens pour être quelqu'un d'à la fois bienveillant, respectable et important, puis qui ne se laisse pas faire en même temps. Quelqu'un de bien. Mais la réalité de nos cœurs pécheurs fait que si on est lucide, si on arrête d'être dans le déni, ben en fait c'est un effort épuisant spirituellement et ultimement vain. Mais bien sûr, il y a d'autres fardeaux en tout genre que nous portons. Des blessures, des traumatismes, des déceptions, des fautes, des épreuves, des incompréhensions. Et Jésus dit, venez à moi avec tout ça. Venez à moi avec votre douleur. Venez à moi avec votre divorce. Venez à moi avec l'abus sexuel que vous avez subi. Venez à moi avec votre maladie. Venez à moi avec votre racisme. Venez à moi avec ces fautes que vous n'osez pas avouer. Venez à moi qui seul peut vous révéler Dieu, verset 27. Venez à moi qui seul peut vous permettre de changer profondément. Verset 20 à 21. Et celui qui dit ces paroles est celui qui bientôt ira jusqu'à la croix pour accomplir notre réconciliation, pour nous libérer du fardeau terrifiant de la condamnation de Dieu et de notre séparation de lui. Jésus nous invite à revenir à Dieu et il a l'autorité de nous ramener à Dieu. La suite de l'appel de Jésus peut nous surprendre. Acceptez mes exigences, littéralement mon joug, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Et notre première réaction peut être de dire, pourquoi est-ce que Jésus parle d'exigence et en même temps de repos? On peut avoir l'impression que c'est un peu en tension. Est-ce que Jésus ne devrait pas dire, oubliez toute exigence et venez à moi pour que je vous donne le repos? Mais la réponse, c'est que ce n'est pas l'absence d'exigence qui nous donnera du repos. C'est plutôt de nous soumettre aux bonnes exigences de notre Créateur. Parce que si on ne le fait pas, si on ne se soumet pas à ses exigences à lui, on se soumettra à d'autres exigences qui sont bien moins bonnes. Or, notre Créateur, lui, veut notre bien. Il nous aime. Il relève et restaure ceux qui sont fatigués et chargés. Et tous ceux qui ont un peu d'expérience avec les enfants vous confirmeront que ce n'est pas l'absence d'exigence qui conduit au repos. Jésus joue en quelque sorte sur le mot joug et fardeau pour dire abandonnez les fardeaux qui vous accablent et prenez mon fardeau qui au contraire vous relèvera et vous libérera. Et il nous appelle à mettre de côté les exigences trompeuses et accablantes que nous portons, de prendre à sa place ses exigences à lui qui sont infiniment bonnes et bienfaisantes pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit précisément au verset 29. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Ce que Jésus nous offre est une vie réconciliée avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. La vie pour laquelle nous avons été créés. Et ce n'est pas ici-bas une vie sans difficulté ou épreuve, et nous le savons bien. Mais c'est une vie libérée de la lutte pour donner du poids à notre vie, pour justifier notre existence face au non-sens qui accable le monde. Une vie qui a retrouvé son ancrage en Dieu par Jésus-Christ. Une vie qui s'inscrit dans l'éternité parce qu'elle est vécue avec un Dieu éternel. Et Dieu n'est pas du genre à faire des choses temporaires. Et la Bible nous promet un jour un monde définitivement, parfaitement réconcilié avec Dieu, un nouveau monde, une nouvelle création. Quand Dieu aura essuyé les larmes de tous les visages, nous dit la parole. Et le peuple que Jésus rassemble est le peuple de ces gens qui ont abandonné leurs prétentions pour se soumettre avec joie à l'autorité de Jésus. Est-ce bien là notre portrait ? Pour nous qui marchons avec Jésus depuis des années, comme c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, cet appel à venir à Jésus y résonne encore. Chaque jour, nous pouvons demander à Christ de nous aider à changer profondément. Chaque jour, nous pouvons nous recentrer sur lui et reconnaître en parole et en acte son autorité. Chaque jour, nous pouvons lui remettre nos fardeaux épuisants et marcher à sa suite pour trouver le repos de notre âme. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui, peut-être pour la première fois, ou revenez à lui. Et n'hésitez pas à venir nous en parler, à Paul, à moi, à d'autres responsables de l'Église, à Édouard qui est là également, ou bien à des frères et sœurs, des chrétiens que vous connaissez, qui sont de confiance. Que le Seigneur nous accorde son repos. Amen.